bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir pour Marguerite et moi que d'être parmi vous ce matin. On essaie de faire au moins une visite par an, même si de temps en temps on est sollicité pour en faire plus. Mais au moins une par an, et c'est très agréable de vous retrouver, de se retrouver ici. Je vous apporte les salutations de l'église de la Prairie à Montbéliard. Alors notre fête des moissons et des récoltes, c'est seulement dimanche prochain. Voilà. En tout cas, c'est très agréable et nous aimons bien parcourir ce chemin pour venir le dimanche matin ici. Parce qu'il est calme. Oh, il était un peu humide ce matin, particulièrement au départ de Montbéliard, mais il est très calme et très agréable. Et c'est très agréable de voir cette campagne tout au long de la route. Ce matin, j'aimerais juste vous dire deux mots sur la rencontre qui s'est passée hier après-midi à la Prairie à Montbéliard. Peut-être avez-vous vu paraître un article dans Christ seul qui évoquait une rencontre pour envisager la création d'une église dans la région de Pontarlier. Alors la région de Pontarlier, si vous ne connaissez pas, c'est à 1000 mètres d'altitude. C'est dans ce que nous appelons, nous, le Haut-Doubs. Donc c'est très vert et très froid l'hiver. Et à proximité de la frontière suisse, il y a en fait une population assez importante. Il y a 7000 personnes qui franchissent la frontière chaque jour pour aller travailler du côté suisse. Donc le moindre petit village de la région s'agrandit parce que les gens s'installent et construisent. Alors cette rencontre était destinée à essayer de progresser dans cette voie. Est-ce que c'est là que le Seigneur nous appelle ? Il en a résulté que nous continuons à avancer dans cette voie. Un certain nombre de jeunes couples sont disposés potentiellement à aller s'installer dans la région pour commencer un travail. Alors voilà, je vous remets cela, ce sujet de prière. Et c'est le Seigneur qui ouvrira les portes et qui accompagnera si c'est dans sa volonté. Voilà, j'aimerais parler avec vous ce matin d'abord de miel, d'abeilles, et ensuite de vignerons. Alors de vignerons, c'est plus d'actualité. De miel et d'abeilles aussi, je ne suis pas apiculteur. Il y en a probablement parmi vous qui en connaissent beaucoup plus que moi dans ce domaine. Alors il n'y a pas énormément de passages dans la Bible qui parlent d'abeilles. En relisant à partir d'une concordance, j'en ai trouvé 4 de passages qui parlent d'abeilles. Dans Deutéronome 1, verset 44, la désobéissance du peuple d'Israël au seuil du pays promis. Et donc l'Ancien Testament nous raconte, les Amorites sont descendus des hauteurs et ils ont fondu sur le pays comme un essaim d'abeilles. Et dans Juges 14, les versets 8 et 9, Samson trouve du miel dans le cadavre du lion qu'il avait tué. Vous pouvez relire ce passage. D'autres passages dans les psaumes, dans le psaume 118, verset 12, et dans Ésaïe, chapitre 7, verset 18. Alors des abeilles qui ne sont pas souvent évoquées dans la Bible, on passe au miel. Alors le miel est beaucoup plus souvent évoqué dans la parole de Dieu. La Bible nous en parle souvent. Dans Proverbes 16, 24, des paroles aimables sont pareils au miel qui est agréable au goût et bon pour la santé. Et dans le livre des Proverbes, toujours, chapitre 24, verset 13, « Mon fils, mange du miel, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. » Mais il y a une suite à ce verset. « Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ta vie si tu arrives à la pratiquer. » Tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Alors pourquoi je vous parle de miel et d'abeilles ? La suite logique, c'est la ruche. Je ne suis pas apiculteur, il y en a un dans notre assemblée. Je ne suis jamais trop intéressé à ce qu'il faisait, si ce n'est qu'il m'apporte des pots de miel le dimanche. C'est surtout ça qui est intéressant finalement, vous me direz. Suite à des paroles entendues lors d'une introduction de conseil de notre église par une de nos sœurs, qui m'a parlé de cela et qui m'a ramené sur une émission qui a eu lieu sur France Inter le samedi 14 septembre entre 11h et midi. Alors le titre de l'émission, ça parle de la philosophie de Darwin. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec nous, certes. Mais en tout cas, ce samedi-là, il a évoqué les ruches et les abeilles. Alors moi, je vais tout vous dire. Moi, le samedi matin, quand je suis à la maison et que je bricole, j'écoute pas France Inter, j'écoute la radio suisse parce qu'il y a de la musique folklorique, mais ça, c'est... Je sais pas si vous arrivez à la capter jusqu'ici. Alors, dans une ruche, une multitude travaille ensemble et coopère en l'absence de tout contrôleur central. Il semblerait que dans une ruche, il n'y a pas de chef. Elle crée une unité fonctionnelle dont les capacités transcendent les capacités de chacun de ses membres. Alors dans une ruche, il y a des ouvrières. Elles sont à la tâche. Les ouvrières conduisent un processus de décision démocratique, par exemple pour le choix d'un nouvel habitat quand un essaim s'en va. La sagesse collective des abeilles choisit la meilleure option parmi toutes celles qui sont disponibles. Également pour la construction des rayons de cire et le stockage des réserves pour nourrir la colonie et survivre à l'hiver. La colonie a une reine. Cependant, le choix du nouveau domicile, celui qui engage la collectivité, n'est pas fait par la reine. Il est débattu, il s'auto-organise. En partageant et en intégrant des informations parcellaires et incomplètes, la colonie dans son ensemble fait émerger une forme d'intelligence collective qui permet à chacune des abeilles de s'adapter à un environnement complexe et changeant. Alors, une seule abeille ne sait pas tout, il y a besoin d'une vision globale. Et puis, nos petites abeilles ouvrières, il semblerait qu'elles aient des carrières successives. Elles ne sont pas toujours condamnées à visser des boulons à la chaîne, mais par contre, elles peuvent être nettoyeuses, nourrices, receveuses de récoltes, et puis architectes, puis gardiennes de l'entrée, puis butineuses, et puis ventileuses. Il y a une multitude de tâches dans une ruche. Et les abeilles, ben, elles changent de fonction et de tâche au fur et à mesure. Alors je ne sais pas vous dire si c'est lié à leur âge, si c'est lié à quoi cela est dû, mais cela fonctionne comme cela. Les ouvrières ne répondent pas de manière identique à une modification de leur environnement, et ces différences contribuent au caractère efficace et harmonieux de leur collaboration et de notre ruche. Exemple. Une ruche doit être maintenue à température constante, environ 35 degrés. Alors bien sûr, la température peut varier. Des matins comme ce matin, je crois qu'elle doit être légèrement plus basse. Si le soleil se met à darder ses rayons sur la ruche, ça doit un peu augmenter. Ce qui veut dire que de temps en temps, il faut mettre le chauffage en route et de temps en temps, il faut faire des courants d'air. Alors si la température baisse trop, les abeilles se rassemblent et elles frissonnent et cela fait monter la température de la ruche. Par contre, si la température remonte, alors des abeilles se mettent là et elles ventilent. Je n'ai pas dit qu'elles pompaient l'air, j'ai dit qu'elles ventilaient. Voilà comment se passe un peu le fonctionnement de cette ruche. Alors bien sûr, quand elles font vibrer leurs ailes pour aérer la ruche, eh bien aussi, il y a aussi des butineuses qui s'envolent pour aller chercher de l'eau à l'extérieur et la ramener à l'intérieur. Et cette eau également rafraîchit l'atmosphère. Alors la réponse individuelle de chaque abeille aux variations de son environnement, eh bien elle entraîne une modification de la température ambiante et puis ça modifie le comportement de toutes les autres. Donc chacune a sa fonction, sa tâche, elle s'y emploie, et tout cela concourt au bon fonctionnement de la ruche. La collectivité bénéficie donc du fait que les membres sont différents, mais que les ouvrières aient des personnalités individuelles différentes. Tout cela s'organise correctement, de manière harmonieuse et efficace pour le bien commun. Et puis, bien sûr, tout cela fonctionne parce qu'il y a une diversité de réponses aux besoins, une diversité de talents qui s'ajoutent. Et puis, bien sûr, le goût et l'intérêt pour le monde qui les entoure. La division du travail dans une colonie d'abeilles à miel repose sur la polyvalence potentielle. On sait changer, on sait s'adapter. Chaque ouvrière change et se transforme et change de carrière à mesure qu'elle prend de l'âge et puis à mesure qu'elle prend de l'expérience. Mais dans chacune des carrières que ces ouvrières prennent, même si c'est la même fonction, elles ne la font pas exactement pareil. Ce qui fait qu'on a une diversité de fonctions, mais dans chaque fonction, on a des fonctionnements un peu différents. Et puis, les changements de carrière ne sont pas toujours stéréotypés. Certaines abeilles continuent à faire le même métier, entre guillemets, je dirais. Et puis, certaines sont plus ou moins efficaces. Par exemple, j'ai appris qu'il y a des butineuses fonceuses. Alors, les butineuses fonceuses, elles sortent, elles trouvent une fleur, elles prennent le nectar, elles rentrent. Et il y a des butineuses un peu moins fonceuses qui prennent le temps de chercher les bonnes fleurs au bon endroit et qui prennent le temps de butiner et de ramener. Et tout cela se complète parce que nos butineuses fonceuses qui sortent à toute vitesse et qui rentrent, quand il n'y a pas trop de fleurs, ben le rendement n'est pas terrible. Par contre, nos butineuses qui prennent le temps, quand elles sortent, elles cherchent les fleurs, elles prennent le temps de chercher, de butiner et de ramener. Tout cela se complète. Alors, voilà, l'histoire de notre ruche et des abeilles. Alors, nous pouvons probablement et certainement comparer cela à notre église, la vôtre, la nôtre. Il y a des églises où il y a plus d'ouvriers et d'ouvrières à la tâche que d'autres. Mais par contre, chacun y fait son travail, en tout cas ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Mais bien sûr, tout ça ne peut fonctionner dans l'église. En tout cas, je ne sais pas si les abeilles s'aiment les unes les autres. Mes compétences ne vont pas jusque-là. Peut-être qu'un compétent pourra me le dire plus que moi. Mais en tout cas, pour la ruche que représente notre église, il y a quand même des conditions à respecter. Je vous invite à lire dans Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. Je suis la vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez uni à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples, je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, ce passage de l'évangile de Jean, il nous est bien connu. Nous le lisons régulièrement et je crois « Aimez-vous les uns les autres » est une phrase qui revient souvent à notre esprit. Il nous est bien connu, il nous parle tout d'abord de cèpe et de sarment. Alors je pense et j'espère que vous tous qui êtes ici, comme moi, nous avons conscience et nous sommes d'accord que Dieu nous appelle des sarments, du cèpe qu'il est. Là où ça se complique, c'est est-ce que nous sommes d'accord que Dieu agisse en vigneron ? Est-ce que nous sommes d'accord quand Dieu agit en vigneron dans nos vies ? Dans Ésaïe 27, les versets 3 et 4, à propos de la vigne et du vigneron, nous lisons « Moi l'Éternel, je suis le gardien. J'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque jour et nuit, je la garde. Il n'y a pas en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai sur elles, je les consumerai tous ensemble. » Alors nous sommes d'accord que nous sommes les sarments, que Christ, que Jésus est le cep. Mais comment être en union et être bien greffé au cep? Il nous faut accepter les soins du vigneron. Le Père désigne nous encourager et non pas à nous décourager. Mais quand il nous émonde dans sa bonté, il nous arrive d'être découragés, de nous rebeller, et nous cherchons quelquefois à échapper à la discipline du Père. S'il nous arrive d'être découragés, sachons que derrière la main, que derrière, il y a la main du vigneron qui désire nous émonder pour nous faire porter encore plus de fruits. Mais que chacun sache aussi que cette main est tendue et qu'il nous importe à nous de la saisir. Nous avions formé un plan qui ne s'est pas réalisé. Le Père en avait un autre. Nous avions pensé prendre un chemin. Nous l'avons trouvé barré. Le Père en avait ou en a un autre. Nous espérions peut-être avoir une vie facile, tranquille, voire populaire. Le Père veut pour nous une vie qui ne craigne pas d'être émondée, quelquefois au prix de blessures morales et physiques. Nous sommes participants de la vie du cep. La sève qui nous fait vivre vient de celui dont il est dit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, est-ce que nous devons redouter nos propres meurtrissures? En nous attachant plus fermement au cep divin, la sève divine circulera dans les sarments que nous voulons être et que nous sommes. Alors, il y aura de la joie divine dans nos cœurs et bien sûr, production de fruits. Nous sommes invités à demeurer dans l'amour du Christ et nous pourrons alors porter un des fruits dont parle Jésus dans ce passage. Aimez-vous les uns les autres. Au travers de la parole de Dieu, nous trouvons sans cesse le verbe « aimer ». Nous trouvons l'expression « aimer comme » une vingtaine de fois par exemple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous le trouvons aussi plusieurs fois. Et nous trouvons le verbe aimer conjugué à tous les temps de l'indicatif présent, et puis à toutes les personnes Alors, si je me souviens, mais ils sont de français, les trois premières personnes du singulier et les trois personnes du pluriel, c'est ça, hein, vous qui êtes encore au lycée, là. On vous apprend encore ça. Alors, dans la parole de Dieu, ce verbe est conjugué souvent au présent, de l'indicatif, souvent même à l'impératif, et à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Il y a encore d'autres expressions qui emploient ce verbe. La parole de Dieu nous parle de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ pour nous, mais la parole de Dieu aussi nous parle du désamour du peuple de Dieu pour son Dieu et des conséquences qui ont suivi ce désamour. Alors oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé est un commandement. En principe, un commandement, on ne le discute pas. On l'exécute, on le vit. Pas facile. Pas facile d'être aimable et d'aimer. Pas facile d'être aimable et d'aimer le propriétaire des moutons qui sont entrés 5 jours de suite dans votre jardin où l'herbe forcément est plus verte que dans la pâture d'à côté. Pas facile d'être aimable et aimant avec notre voisin du dessus, du dessous ou d'à côté qui a la fâcheuse habitude d'écouter sa musique aux heures où on peut l'écouter mais un peu plus doucement ou de tondre sa pelouse à l'heure où vous aimeriez faire un peu de sieste. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous mais chez nous à Grand Charmont j'ai pas le droit de tondre le soir après 19h, le samedi après-midi, pendant l'heure de midi entre 12h et 14h, et forcément le dimanche. Mais je tombe pas le dimanche. Pas facile donc d'être aimable et d'aimer ceux qui nous entourent. Pas facile d'aimer son supérieur hiérarchique quand nous en avons un. Il est vraiment nul. Comment faire pour être plus aimant avec mon épouse ou avec mon mari, qui ont parfois le don de mériter? Comment faire pour aimer plus mon frère et ma sœur dans la foi? Si nous prenons le temps de méditer en nous-mêmes sur ce sujet, nous allons trouver de nombreuses situations où nous ne savons pas ou plus trop comment aimer, et peut-être des situations où nous ne voulons plus aimer. Je ne l'espère pas, mais j'ai rencontré dans ma vie quelques situations, entre autres de gens qui ne voulaient plus. Nous connaissons, nous avons connu des personnes qui respiraient l'amour. Elle nous impressionne. Il y en a, nous en rencontrons dans l'église et en dehors de l'église. Vous les voyez à leur visage. Il nous est arrivé à mon épouse et moi d'être devant les magasins, les grandes surfaces ou les petites boulangeries pour faire des collectes, entre autres pour les Restos du Cœur. Il y en a une hier après-midi sous la pluie qui était devant une boulangerie pour la journée des aveugles. Et vous rencontrez des gens, vous ne les connaissez pas, vous les voyez arriver. Et il y en a dont le visage respire l'amour et quand vous vous adressez à eux, ce sont des paroles gentilles, aimables et agréables. Il y en a, quand vous voyez leur visage, on juge, hein, on ne devrait pas, mais on le fait. Vous dites, oh celui-là, c'est pas terrible. Ou celle-là. Mais on est aussi quelquefois surpris. En tout cas, sachons que Dieu nous demande d'avoir des visages qui respirent et qui vivent l'amour. C'est pas facile tous les jours. Alors nous nous disons comment faire. Alors dans mon métier, on m'a souvent dit que j'avais des pistes de progression. Longtemps, je crois que ma femme elle doit le penser encore maintenant aussi. Alors il y a des pistes de progression. Maintenant on ne me le dit plus dans mon métier parce que Il n'y en a plus. Quelles sont ces pistes de progression? Alors je vous invite à lire dans Romains 12, à partir du verset 9. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous ne prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Alors je n'ai lu que ces quelques versets, mais si vous reprenez l'Épître aux Romains, vous reprenez les chapitres 12 à 15. Et dans ma Bible, en français courant, ils ont pour titre « Exhortation pratique ». Moi, ça me parle quand on y a des exhortations pratiques. Je suis plus quelqu'un qui aime faire de ses mains que quelqu'un qui phosphore. Alors quand on me dit « Comment je peux faire ?», ça m'arrange. Nous avons là des voies toutes tracées. Yaka. Ah, nous aimons bien aussi cette expression Yaka. Dans la grande maison au Lyon, là où je travaillais, à côté de Montbéliard, il y avait beaucoup de Yaka. Il y a aussi des faucons et il faut le faire faire. Ça existe partout, ça existe même dans l'Église. Mais nous avons la parole de Dieu qui, elle, nous indique strictement qui a à faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 et suivantes, c'est la définition de l'amour. L'amour est patient, serviable, n'est pas envieux, il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout. Je n'aurai pas la prétention de vous interroger sur où vous en êtes dans le respect de tout ça. Dans un passage de l'Évangile, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, il n'empêche, nous avons là un programme. Nous allons bientôt arriver en période électorale, enfin, j'ai plutôt l'impression que nous y sommes tout le temps, mais en tout cas, il y a aussi de quoi tenir des programmes pour nous. Dans 1 Jean 2, les versets 9 à 11, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. La parole de Dieu, elle est dure quelquefois, et elle nous met le doigt sur des endroits où ça fait mal. Mais la parole de Dieu aussi, elle est pleine d'espérance, elle est pleine de promesses. Notre Père Céleste sait de quoi nous sommes faits. Notre Père Céleste nous connaît mieux que nous-mêmes. Notre Père Céleste le sait tellement bien qu'un jour il a dit « Pour qu'il s'en sorte, faut que je fasse quelque chose. » Et il l'a fait. Il a envoyé Jésus qui est venu, qui est mort sur cette croix, afin que toujours à nouveau nous puissions retourner au pied de cette croix. Quand le programme électoral que Dieu nous donne dans sa parole a quelques entorses, a quelques petits dérapages. J'ose espérer que ce dernier passage qui parle de haïr son frère, j'ose espérer que personne parmi nous ce matin n'est dans une telle situation. Quand bien même cela arrive, revenons au pied de la croix, déposons tout, et notre Dieu nous aidera à avancer. Ce survol des évangiles où la parole de Dieu nous parle d'aimer et d'amour n'est qu'un survol. Vous connaissez tous certainement d'autres passages qui nous parlent d'amour, d'aimer les uns les autres, mais surtout, ce que nous connaissons, c'est les passages qui nous parlent de l'amour de Dieu. Et c'est aussi à cela qu'il faut que nous fassions référence. Alors, notre Église, notre communauté, ressemble-t-elle à cette ruche que nous avons évoquée au début? Les fonceurs, les réfléchis, les plus hardis, les plus manuels, les plus intellectuels. Nous sommes tous à la tâche, au service de Dieu, du moins je l'espère. Ou en tout cas, notre Dieu nous appelle à être à la tâche pour lui. Nous sommes donc dans des tâches et des services qui peuvent évoluer au fil des années qui passent. Mais nous sommes tous ensemble au service de Dieu et des autres. Nous avons évoqué hier, dans nos réflexions sur une implantation d'église, par quoi on commence quand on veut implanter une église. Est-ce qu'on crée un bâtiment qu'on appelle église, ou est-ce qu'on arrive et qu'on se met au service de la population? Notre Dieu nous appelle d'abord à le servir et à servir les autres. Avec les difficultés inhérentes au service, avec les moments de découragement, avec les moments de joie. Combien de joie nous éprouvons lorsque nous accompagnons quelqu'un depuis des mois, des années, lorsque nous le portons dans la prière pour tel ou tel sujet, depuis des mois, des années, et lorsque nous nous apercevons que Dieu répond. Alors certes, on aimerait qu'il réponde beaucoup plus vite. Certes, on aimerait que les choses avancent et que l'Évangile se répande partout, beaucoup plus vite. Mais les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Par contre, le temps de Dieu, c'est pour nous d'aimer. Alors rappelons-nous ce commandement par excellence. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et dans cette ruche où le Seigneur nous a placés, ici, à Montbéliard, dans notre vie de tous les jours, dans notre rencontre, dans nos rencontres, dans nos accompagnements, rappelons-nous que le Seigneur nous a placés dans la ruche de ce monde, mais aussi qu'il nous a donné son esprit, qu'il nous laisse son esprit. Et nous avons un privilège, nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour guider et accompagner les abeilles ouvrières que nous sommes. Que Dieu nous fasse la grâce de nous renouveler par son Esprit dans nos actions, dans notre vie pour lui, dans tout ce que nous faisons pour lui et dans notre vie de tous les jours, et que nous sachions être de ceux dont le visage respire l'amour. Amen.
Amen.
Je vais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es le modèle de l'amour. Tu es celui qui aime ses enfants envers et contre tout. Tu es celui vers qui nous pouvons nous tourner. Tu es celui qui a envoyé ton Fils Jésus sur la croix, qui a manifesté cet amour incommensurable, incompréhensible. Nous te rendons grâce et nous t'aimons en retour. Nous sommes devant toi ce matin et tu connais nos vies. Tu sais ce qui est dans nos vies à ta gloire, qui quelquefois ne l'est moins. Tu sais la difficulté que nous avons à être aimables, à aimer. Mais nous savons, Seigneur, que par ton esprit, tu es là, présent, et que tu nous aides à vivre ces paroles que tu nous donnes dans la Bible et dans tes évangiles. Aide-nous, Seigneur, ce matin à avancer avec toi dans l'amour, avancer avec toi dans l'amour que nous te portons, et à avancer aussi dans l'amour que tu nous demandes de manifester autour de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans la foi qui manifestent cet amour à notre égard. Apprends-nous, Seigneur, à être de ceux qui aiment, sans discernement, sans compter et dans la joie. Merci, Père, parce que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Amen.